Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe. Pour cette 10e émission de Bonheur Chronique, ma chronique hebdomadaire sur le bonheur, je vais aborder le thème suivant. Pourquoi la méthode de base de la CNV peut aider à être heureux? La méthode de communication non violente, appelée aussi CNV, est une méthode en 4 temps. Elle est utilisée pour résoudre les conflits, améliorer les relations et accroître les performances dans tous les domaines de l'activité humaine. Elle est applicable à chaque phase d'un dialogue entre deux personnes. Elle s'exerce dans la vie familiale, lors des échanges au sein de la fratrie entre parents et enfants, dans le couple et avec la famille élargie. Elle s'applique aussi au cercle amical, dans le domaine sportif et associatif. La communication non violente est enseignée dans les écoles, aux enseignants et aux élèves, produisant des transformations positives des relations, plus de responsabilités et moins de conflits. La CNV est très efficace dans le monde du travail, entre manager et son collaborateur, comme avec les clients, fournisseurs ou encore ses propres collègues. Elle s'applique parfaitement aussi aux prisons, aux hôpitaux, à la police et à l'armée. Cette méthode est utilisée dans l'univers politique, auprès des élus et des militants. Marshall Rosenberg s'est personnellement impliqué pour aider des gouvernements à renouer un dialogue après des conflits armés et des guerres civiles. Au Rwanda, au Burundi, en Sierra Leone, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Serbie, en Croatie, en Irlande du Nord, en Israël et en Palestine notamment. Enfin, même si l'intitulé de cette méthode est « communication non violente », elle ne s'applique pas uniquement en gestion de conflits. Elle est en effet bien souvent employée pour exprimer des reproches, formuler des recadrages, des rappels aux règles et émettre des demandes de progrès et faire en sorte que ceux-ci soient entendus, intégrés et appliqués. Mais cette approche est très efficace pour faire des compliments et partager des remarques positives, notamment auprès des personnes ayant du mal à les entendre, soupçonneuses ou en perte de confiance. Notez que vous pourrez l'utiliser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Voyons cette méthode maintenant. Nous allons explorer ensemble les 4 temps O, S, B et D, à utiliser dans l'ordre O, S, B, D pour plus d'efficacité. Développer des relations apaisées, constructives, clarifiées, voilà une approche au service de notre bonheur. Le premier temps, c'est O, pour observation. Commencez toujours par décrire la situation en termes d'observation partageable, du factuel uniquement, des faits, des faits, des faits. Pas d'opinion, pas de point de vue, et surtout, pas de jugement. Afin d'arriver à une observation précise, il vaut mieux éviter d'y mêler des comparaisons et des préjugés. Si votre interlocuteur se sent jugé personnellement, il aura tendance à s'investir dans l'autodéfense plutôt que dans la compréhension. Regardez comme une caméra. Écoutez comme un microphone. Notez les données comme un lecteur de code, de façon objective. Comme n'importe qui, non impliqué dans la situation, aurait pu le faire. Une caméra, un micro ou un lecteur de code enregistrent des informations sans les juger, sans état d'âme. La CNV recommande de parler de faits concrets pour décrire les événements. Par exemple, si on traite notre interlocuteur de menteur ou de fainéant, on l'enferme mentalement dans une case. Alors que si l'on parle de faits concrets, on ouvre la possibilité de formuler des demandes d'actions précises à réaliser dans le futur. On laisse alors à l'autre une chance de modifier son attitude. Le deuxième temps de la méthode OSBD, c'est S. S pour sentiment. À ce moment, vous exprimez vos propres sentiments, vos émotions vécues dans la situation. Vous ne parlez que de vous, pas de votre interlocuteur. Afin de pouvoir communiquer ce qui se passe en vous, la CNV vous invite à développer un vocabulaire affectif pour exprimer toute la palette d'émotions qui peuvent vous toucher. Il existe de nombreuses nuances de peur, depuis une légère inquiétude jusqu'à une panique pétrifiante. Il existe de nombreuses nuances de colère, depuis un petit agacement jusqu'à une furie massacrante. Il existe de nombreuses nuances de tristesse, depuis un léger coup de blues passager jusqu'à une dépression profonde. et il existe aussi de nombreuses nuances de joie, depuis une douce sérénité jusqu'à un enthousiasme exubérant. Cependant, un des pièges habituels dans l'interprétation de nos sentiments est de faire l'amalgame entre nos émotions et l'idée que nous nous faisons de l'autre, de ses réactions ou de ses comportements à notre égard. Nous tombons alors dans l'interprétation mentale. Nous croyons parler de nous alors qu'en fait nous parlons de l'autre. À titre d'exemple, il vaut mieux éviter d'utiliser « je me sens abandonné, menacé ou incompris » car nous ne parlons pas de nous mais de l'autre, l'accusant de nous abandonner, de nous menacer ou de ne pas nous comprendre. En ne parlant que de vos émotions, vous amenez votre interlocuteur à vous écouter, puisqu'il ne se sentira pas la cible de vos paroles. Quelle que soit votre émotion, personne ne peut nier que vous la vivez. Si vous exprimez votre déception, personne ne peut vous rétorquer « mais non, ce n'est pas vrai, tu n'es pas déçu ». Ne se sentant pas agressé par vos paroles, l'autre n'aura pas besoin de contre-attaquer. Son écoute et son silence, alors, sont au profit d'un pas vers la paix. Le troisième temps, c'est B. B pour besoin. C'est à ce moment du processus que vous devez clarifier vos besoins, satisfaits ou non satisfaits. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, de sentiment, sans lien avec un ou plusieurs besoins. Si vos émotions sont désagréables à vivre, inconfortables ou douloureuses, c'est parce que des besoins importants ne sont pas satisfaits. En revanche, si vos émotions sont agréables, c'est parce qu'elles sont liées à des besoins satisfaits. Ce sont vos propres besoins, vos raisons profondes en lien avec vos valeurs. D'où l'importance de déterminer précisément vos besoins et d'en assurer la responsabilité. Par ailleurs, si l'on accompagne nos demandes d'explication de nos raisons profondes, on permet à l'autre de nous comprendre. Quel que soit votre besoin, personne ne peut nier que vous le ressentez. Si vous partagez votre besoin de respect de votre intimité, par exemple, personne ne peut ne vous le nier. Ne se sentant pas responsable de vos besoins, l'autre n'aura pas besoin de vous contredire ou de se justifier. De nouveau, son écoute et son silence seront au profit d'un pas supplémentaire vers la paix. Le quatrième et dernier temps de la méthode OSBD, c'est D. D pour demande. Demandez les actions que vous souhaitez. Il s'agit ici de traduire nos besoins généraux en demandes concrètes, c'est-à-dire concernant des actions précises nécessaires pour satisfaire les besoins les plus urgents, ou bien de prévoir des actions possibles afin de répondre à un problème qui pourrait se reproduire dans le futur. Faites une demande dans l'instant présent, pour que la mise en action soit effective, tout de suite. Aussi, évitez les phrases du genre « j'aimerais qu'à l'avenir, tu te mettes au travail plus vite ». Et dites plutôt, peux-tu finir ton exercice avant de te remettre à jouer? Faites une demande réaliste, réalisable, en donnant un sens à l'effort demandé, en permettant de réaliser la demande sans se décourager face à l'ampleur d'une tâche impossible à accomplir. Faites une demande négociable, puisqu'on ne peut pas forcer qui que ce soit à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Laissez une marge de manœuvre à l'interlocuteur et tenez-vous prêt à essuyer un refus. Selon les principes de la CNV, il ne faut pas utiliser les exigences, la menace, les ordres ou la manipulation, bien sûr. Une vraie demande accepte le refus. J'indique que j'apprécie que l'autre accède à mes désirs que s'il y est vraiment disposé, alors qu'une exigence n'accepte pas le refus. L'autre sera convaincu qu'il sera critiqué ou puni s'il n'obtempère pas. Faites une demande précise, concrète. C'est le meilleur moyen d'obtenir ce que vous désirez. Bannissez donc de vos demandes les expressions et les mots fourre-tout et imprécis comme « j'en veux un peu plus »,« essaye de faire des efforts » et le champion toute catégorie « j'en ai besoin d'urgence ». Que se passe-t-il, par exemple, lorsqu'on demande à quelqu'un de nous apporter un dossier d'urgence ? La personne arrête toutes les tâches en cours afin de nous satisfaire, et là, il peut nous arriver de lui en faire le reproche, disant « mais il ne ferait pas arrêter tout ce que tu faisais, tu aurais pu m'apporter le dossier avant de partir ce soir ». L'autre peut rétorquer alors, mais fallait me le dire que c'était pour ce soir. Et nous deux répondre, tu devrais quand même savoir que lorsque je dis urgent, ce n'est pas à la minute. Si j'en avais eu besoin immédiatement, je l'aurais pris moi-même. Dans ces situations de demande non concrète, on aimerait que l'autre soit dans notre tête. Comprenons notre souhait sans besoin de le préciser. Avec une mauvaise foi terrible, n'acceptons pas notre tort. Enfin, votre demande doit toujours être formulée positivement. Parce que notre cerveau ne comprend pas le négatif. En demandant d'arrêter, de cesser, de ne pas faire quelque chose, c'est ce quelque chose que vous imprimez dans le cerveau de votre interlocuteur. Plus vous demandez à un enfant d'arrêter de bavarder, plus il en aura envie, puisque son cerveau ne retiendra que « bavarder ». Faisons un essai. Je vous demande, chers auditeurs, de ne pas penser à un éléphant jaune qui tourne autour de la tour Eiffel. Alors, vous avez du mal à détacher l'image de votre cerveau ? C'est normal. Votre cerveau ne sait pas ne pas penser à. Il ne sait pas ne pas faire, il ne sait pas cesser ou arrêter de. C'est physiologique. Il y a aussi une raison psychologique à refuser une demande d'arrêter de. Car nous demander de cesser de faire ce que nous faisons est compris comme une tentative de contrôle de nos faits et gestes, d'empêchement de vivre. Alors, pour prouver à l'autre que l'on est bien vivant, pour s'affirmer contre l'autorité, on va faire exactement le contraire de ce que l'on nous demande, c'est existentiel. Il est important de préciser le comportement que nous souhaitons voir si nous voulons obtenir la satisfaction de nos besoins. Restons ancrés dans le besoin que nous cherchons à combler. Voici les deux demandes les plus courantes en CNV. La demande d'empathie. Voudrais-tu me dire ce que tu viens de m'entendre dire ? La demande d'honnêteté. Voudrais-tu me dire comment tu te sens quand tu m'entends dire cela ? Ou encore, voudrais-tu me dire ce que tu penses de ce que je viens de dire ? Attention néanmoins. Ce n'est pas parce que notre demande a été parfaitement formulée qu'elle inspirera le comportement voulu. Utiliser la méthode OSBD demande du temps et des efforts. C'est un combat contre nos habitudes. Le conte de la semaine, c'est la parabole du vieux Cherokee. Un vieil homme, Cherokee, apprend la vie à son petit-fils. Un combat a lieu à l'intérieur de moi, dit-il au garçon. Un combat terrible entre deux loups. L'un est mauvais. Il est colère, envie, chagrin, regret, avidité, arrogance, apitoiement sur soi-même, culpabilité, ressentiment, infériorité, mensonge, vanité, supériorité et égo. L'autre est bon. Il est joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, compassion et foi. Le même combat a lieu en toi-même et à l'intérieur de tout le monde. Le petit-fils réfléchit pendant une minute, puis demanda à son grand-père « Quel sera le loup qui vaincra ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu nourris. » Pour l'action de la semaine, avant de vous demander de réaliser un premier petit pas en CNV, je tiens à partager avec vous deux citations en lien avec cette action. La première est de Marshall Rosenberg. Quoi que vous fassiez, faites-le avec le désir de servir la vie. Servez les êtres humains avec compassion. Et si votre but est de contribuer à leur bien-être et que vous faites cela de plein gré, cela rencontrera alors votre besoin de contribuer. Et quand nous donnons de cette manière-là, il devient très difficile et très subtil, en fait, de dire qui donne et qui reçoit. La seconde citation est de Carl Rogers, le maître de Marshall Rosenberg. Il est toujours plus facile de se fâcher contre l'autre que de découvrir sa mauvaise humeur. Cette semaine donc, je vous propose de tester le partage de vos émotions lors de vos conversations, même en dehors de tout conflit. Commencez un échange par votre humeur, votre météo interne. Parlez de ce que vous éprouvez et, si possible, faites le lien avec vos besoins. À titre d'exemple, en début de réunion, je suis ravi de vous retrouver. J'ai besoin de votre avis concernant une décision importante. Ou, je me sens fatigué ce matin. Notre fils nous a réveillés 4 fois. C'est important pour moi de prendre quelques minutes avant de démarrer cette réunion. Enfin, pour la musique du bonheur de la semaine, je vous laisse avec James Brown et son célèbre titre « I feel good ». C'était Jean-Marie Marcos pour Bonheur Chronique sur Radio Axe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur le bonheur. D'ici là, soyez heureux. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. You.